Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour. Ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie et Alison. Bonjour.
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 Alors, toutes deux, vous êtes ici pour nous parler d'une animation, le Salon d'automne, qui va avoir lieu du 10 au 13 novembre à la salle polyvalente de Die. Et alors, donc, pourquoi ce Salon d'automne à l'adresse du public?
Alors, chaque année, en fait, à l'automne, c'est la saison des champignons. Et donc, on expose la diversité du vivant à travers ces champignons. Il y a souvent plus de 150 espèces différentes. On ne s'intéresse pas que aux comestibles, mais vraiment à tous les champignons.
Oui, alors c'est un événement en fait qu'on organise depuis 2017 avec l'association Sources et Racines. Et cet événement, en fait, il a comme objectif d'associer une proposition naturaliste, donc qui parle de la nature sur le territoire du Diwa en automne, et puis des propositions un peu plus portées sur l'histoire culturelle, donc on va dire ethnographique, du Diwa. Donc cette année, on associe à notre exposition mycologique, qu'on a donc conduite déjà depuis un certain nombre d'années, on associe une expo et une journée de conférences et de débats sur la thématique de la filière laine. Donc on l'a fait déjà précédemment. L'année dernière, on avait proposé une thématique sur les semences, qui s'associait au salon d'automne qui concerne les champignons. Et l'année précédente, on avait fait une thématique sur l'apiculture. Donc chaque année, on a une nouvelle thématique. Et cette année, la thématique concerne la laine. Mais il y a donc vraiment ces deux volets. Un volet naturaliste avec la nature en automne. Donc les champignons, mais ça peut être les lichens, les fruits d'automne. Voilà. Et puis ce volet ethnographique.
Il y a aussi une partie insectes, hein, il me semble.
Il y en a eu une. Je ne sais pas si cette année...
Non, cette année, il n'y aura pas les insectes.
Uniquement le végétal, alors.
Voilà, cette année, uniquement le côté mycologique, végétal, et puis donc cette thématique territoire avec la filière laine.
Cette découverte des champignons, est-ce que chaque année, il y a nécessité d'initier les gens à la cueillette, à pouvoir aussi déterminer s'ils sont comestibles ou vénéneux?
Oui, c'est plutôt essentiel, surtout que justement avec de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la nature, qui font des sorties et qui se posent des questions. Justement, cette année, on va faire une formation sur la mycologie, donc avec avec la docteure Caroline Paliard, qui est professeure de mycologie à la faculté de pharmacie de Lyon. Et elle vient chaque année depuis quelques années pour nous aider à la détermination des champignons. Et elle fait une formation vendredi 11 novembre le matin et une sortie dimanche 13 novembre, pareil la matinée, où on peut apprendre vraiment à reconnaître les champignons avec des travaux pratiques, des observations à la loupe et voilà, en utilisant des clés de détermination pour vraiment bien les reconnaître.
Cette année, et comme d'autres années précédentes, il y a eu la sécheresse. Qu'est-ce que cela impacte aussi sur le monde mycologique?
Je pense que tout le monde l'a observé en se promenant un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu très peu de champignons jusqu'à tard. Ils sont arrivés assez tard.
Mais, il y en a énormément cette année des champignons, au contraire.
Oui, ouais. Mais ils sont arrivés tard, comme beaucoup d'années. Et puis, c'était très... comment dire? Il y a eu des endroits où il y en avait certaines années où il n'y avait rien du tout. Et c'était sec, 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 sec. Après, peut-être ça dépend des endroits, en effet. C'est ça, ouais. C'est ça les champignons.
Oui, le principe des champignons, c'est que c'est une ressource qui est assez aléatoire, qui est très variable d'une année sur l'autre. C'est vrai que ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé plutôt rassurant en fait, le fait que malgré une très forte sécheresse, dès que les pluies sont arrivées, en fait, il y a eu, franchement, moi je trouve beaucoup d'endroits et beaucoup de types de champignons, en tout cas ceux que moi je reconnais et qui m'intéressent, qui étaient finalement assez abondants. Et du coup, c'était plutôt rassurant parce que ça veut dire que malgré la sécheresse de cet été, les mycorhizes et donc les organismes souterrains, ils ont tenu le choc. Ça, c'est aussi parce qu'on a certainement des sols assez résilients qui sont capables de tenir dans le temps quand il y a de la sécheresse. Mais c'est certainement localisé. Hein, de toute façon, c'est toujours une question assez locale, les champignons.
Le champignon sous tous ses aspects, il y a l'aspect culinaire, mais il y a d'autres utilisations du champignon d'ailleurs.
On avait fait une année, on avait fait une table sur ce qu'on appelait l'ethno-pharmacomycologie, donc l'utilisation des champignons pour la pharmacie. Une année, on avait fait une table là-dessus, j'avais été chercher un peu des choses sur les usages médicinaux, donc il y en a certains qui sont médicinaux. Il y en a d'autres qui m'intéressent, moi personnellement, pour la teinture et qui ont été utilisés anciennement. Et il y en a quelques-uns plutôt du côté des... Enfin, là, on n'est plus exactement dans les champignons, mais dans les lichens qui ont pu servir de fourrage ou des usages annexes, même des usages techniques comme la madou pour le feu ou pour le feutre. Voilà.
D'ailleurs, le lichen, je pense t'avoir déjà posé la question. Est-ce qu'il y en a une utilité permettent-ils aussi une ressource?
Les lichens sont assez fantastiques. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les lichens. C'est vrai qu'il y a... cette année, je ne sais pas si on mettra l'accent sur tous ces usages parce qu'on varie un petit peu nos thématiques et que cette année, l'accent est mis, comme l'a expliqué Alison, sur vraiment l'idée de connaissance, de détermination, donc d'accueillir les gens autour de la capacité à identifier, à distinguer des espèces entre elles. Mais c'est vrai que les lichens, ils ont énormément de potentiel, dont des usages en teinture, mais aussi médicinaux et beaucoup d'usages documentés assez anciens pour lesquels on peut faire un récit qui remonte un peu dans le temps.
Et puis la teinture, ça c'est une, tu disais que c'était une technique ancienne abandonnée fut un temps et qui revient un peu, ou est-ce qu'il y a un développement sur cette technique de la teinture?
Tu veux dire avec les champignons?
Oui.
Alors, il y a quelques espèces qui étaient très importantes anciennement, et dont une qui est peut-être intéressante parce qu'on n'est pas très loin de Romans où on transformait le cuir. Et il y a une espèce de champignon qui, elle, est bien documentée anciennement dans les Alpes, en Italie et jusque dans notre coin, dans le Dauphiné ici. Et cette espèce-là, elle servait à la teinture des cuirs. Donc, on peut se demander, même si les sources ne sont pas très nombreuses, puisqu'elle était bien connue et qu'elle est identifiée comme telle, si elle n'a pas été à un moment récoltée pour notamment la teinture du cuir. Voilà, et dans le renouveau, je dirais que pour l'instant, on est plus dans de l'exploration. Et justement, comme on l'a dit, c'est des ressources un peu aléatoires. Donc, ce n'est pas sur ce genre de ressources qu'on va pouvoir établir des artisanats, disons, à échelle de filières, même micro-filières. On va quand même être plutôt sur des choses un peu expérimentales ou personnelles. Voilà, mais c'est intéressant, il y a pas mal de choses à faire.
Il peut se dégager beaucoup de couleurs, des champignons d'ailleurs.
Oui, on avait fait une année l'expo sur ça. Justement parce que Caroline, donc, qui vient pour présenter la détermination des champignons, c'est en fait une collègue avec laquelle on a écrit un bouquin, moi sur le volet teinture et elle sur le côté détermination, qui parle de la teinture à partir des champignons et des lichens. Et donc, une année, on avait exposé toutes les deux notre travail. Moi, j'avais amené tous les échantillons. Et effectivement, la gamme de couleurs, elle va du rose au bleu, en passant par le fauve, le jaune et le marron. Mais il y a aussi des verts, il y a aussi d'autres couleurs, des rouges.
Pour les champignons, il y a aussi une exposition qui est à la salle polyvalente, hein, pour les 150 espèces. Et le 10, il y aura justement une ouverture pour les scolaires.
Oui, jeudi. Tout à fait. Donc, on a invité les écoles du Diwa et le collège et le lycée à venir visiter cette exposition.
Et puis, le reste, le 11 et 12, ça sera pour tous les publics. Et ouais. Le 13 novembre, qu'est-ce qui se passera alors de 10 à 15 heures, le dimanche?
Alors, le dimanche matin, il y aura une sortie de détermination avec Caroline Paliard. Voilà.
Oui, en fait, le principe, c'est aussi que pendant toute la durée du salon, donc ça commence mercredi, il y a des personnes qui sont sur place, donc Jean-Claude Roucheuse, Caroline Paliard, et puis d'autres personnes sur des sujets plus, disons, en appui, qui vont accueillir toutes les personnes qui viennent avec leur panier et les aider à déterminer les champignons trouvés. Donc il y a l'idée qu'il y a un partage de connaissances pendant toute la durée du salon, en plus des sorties spécifiques.
C'est ça. Donc si vous trouvez des champignons, à partir de mercredi 14h, vous pouvez les amener à la salle polyvalente pour qu'on les détermine.
Voilà. Surtout s'ils semblent inconnus.
Oui, hein, oui, 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 on s'intéresse à tout.
Donc, il y a cette exposition de champignons, hein, frais, semi-frais, peut-être secs aussi. Et sous quels aspects encore, hein?
Donc, il y a les champignons qui auront été récoltés. Et on a la chance d'avoir la collection de champignons en terre de la famille Jean-Digotier, donc qui était à Châtillon, et c'est le grand-père d'une centenière qui est ici sur Die, et qui fabriquait des champignons en terre, et vraiment de façon très réaliste, qui sont dans des petites vitrines, et qu'on pourra admirer, avec un peu de chance, à côté des champignons récoltés.
C'était des champignons sculptés, enfin créés pour un côté pédagogique.
Oui, tout à fait. Et vraiment avec le nom, la comestibilité. Alors, il faut faire attention parce que justement, la comestibilité, il y a eu des découvertes depuis et certains champignons qui étaient considérés comme comestibles à l'époque se sont finalement révélés toxiques avec des effets très particuliers.
Je reviens encore aux champignons. Il n'y a qu'une seule manière de le consommer, c'est cuit, hein, je crois.
Les champignons de Paris se consomment crus, donc non. Mais c'est vrai que c'est mieux de les cuire. Mais ça, voilà, les champignons de Paris.
Ça dépend des espèces. Ouais, y a des espèces espèces qui se mangent crues. C'est un critère, en fait.
Oui, certains sont toxiques crus, mais ça dépend.
Et il y aura un espace librairie également, donc.
Oui, on a une sélection de livres que nous propose la librairie Mosaïque, avec des livres de détermination, mais aussi des livres pour les enfants sur ces thèmes, principalement sur les champignons. Voilà.
Et puis, on passe avec ce week-end où vous serez présent dans ce refil et défil en tant que source et racine et vous proposerez une série de conférences, de démonstrations autour de la laine.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, pour bien expliquer, on est en fait avec l'association et dans le cadre du salon d'automne, donc dans la même salle, à la salle polyvalente, dans le même lieu. On propose chaque année une expo thématique. Cette année, donc, l'exposition thématique, elle se met en lien avec un projet qui a été initié par la mairie. Ce projet est de parler du textile recyclé et des savoir-faire textiles. Et nous, en fait, notre compétence, c'était de parler un peu du côté vraiment ancré au niveau du territoire du Diois, des pratiques textiles. Et on a décidé de se limiter à la laine, qui est la ressource la plus anciennement documentée dans ces usages ici. Et qui est aussi une ressource qui a eu pas mal d'importance, puisqu'on est dans un pays où l'élevage ovin a été important depuis l'époque romaine, et qui a pas mal disparu aussi, et donc est finalement assez peu connue des Diois, même des acteurs Diois. Donc l'idée de cette journée, c'est de présenter, donc ce sera que le vendredi qu'il y aura les activités, les animations, le reste du temps il y aura des choses à voir. Mais donc le vendredi, l'idée, c'est de présenter à la fois des collections d'objets qui viennent du musée et des collections contemporaines pour montrer avec quoi on travaille la laine. Qu'est-ce que ça veut dire transformer la laine? Ça, c'est donc toute la journée en expo et pendant le week-end. Et puis, à partir de 14h, on va être sur des prises de parole pour raconter l'histoire ancienne de la laine dans le Diois et l'histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec la filière laine? Comment ça se passe actuellement en France et dans le Diois? Donc pour ça, c'est Margot Jobé-Duval qui va intervenir sur le volet de la présentation contemporaine de la filière laine. Moi, je ferai l'introduction sur la question plus ancienne de l'histoire de la laine localement. Et puis à 16h30, on a une table ronde à laquelle on a invité des acteurs du Diwa qui sont tous soit éleveurs, soit des gens qui ont mis en place des outils, des gens qui participent à la filière laine. Et l'idée, c'est d'avoir un échange, de faire une sorte de table ronde sur, du coup, où est-ce qu'on en est maintenant avec les initiatives des uns et des autres dans le Diwa pour essayer de faire avancer cette question de la laine et de sa valorisation localement. Voilà. Donc ça, c'est le vendredi 11.
Et donc, la table ronde, c'est l'idée de faire renaître une filière laine, de la valoriser localement. Et pour ça, vous êtes à l'étude de ce qui est possible et des limites. Alors, quel est le constat aujourd'hui dans ces deux problématiques ?
Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a réellement des initiatives individuelles, et ça, c'est depuis un certain temps, certains depuis 20 ou 30 ans, d'autres plus récemment, qui sont portés souvent par des éleveurs ou par des gens qui sont très engagés pour faire vivre, pour utiliser leur ressource qui est la laine, qu'on récolte chaque année sur le dos des moutons et dont on peut faire usage. Donc il y a réellement des gens qui ont porté des initiatives et en même temps, pour l'instant, de manière systémique, il n'y a pas forcément tous les outils, toutes les connexions qui permettent que ça soit, que ça se diffuse de manière vraiment facile, comme une alternative au textile importé et à la masse textile globalement qui est consommée. Et l'enjeu, c'est aussi peut-être de parler justement des questions d'échelle dans le textile. Je pense que Margot a dans la tête de parler aussi de ces enjeux d'échelle entre la mondialisation de la production textile et la relocalisation. Qu'est-ce qui se joue ? Et c'est un énorme sujet qu'elle développera vendredi. Et les enjeux d'échelle aussi entre transformer de la laine à la main et puis pouvoir produire pour alimenter une filière textile, même petite. Quels outils on a besoin ? Quelle masse de matière il faut transformer ? Enfin, c'est tous ces sujets-là, en fait, dont on a déjà parlé, d'ailleurs, il y a quelques années à ce micro, hein, parce qu'on était venu il y a presque 10 ans parler de ça ici, je me souviens. Et en même temps, c'est en chemin. Là, il y a un vrai intérêt actuellement pour la laine. Il y a plein de gens qui veulent produire, qui veulent s'installer et garder leur laine. Ce qui était beaucoup moins le cas, justement, il y a 10 ans. Enfin, c'est en train de monter. Donc, il y a aussi un intérêt nouveau et une envie de se reconnecter tous ensemble pour se dire, OK, qu'est-ce qui nous manque pour que ça marche ? Et qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres pour que ça tourne aussi ? Voilà, c'est un peu l'idée.
Et justement, dans ce domaine, tu me dis que certains agissent localement, avec leurs moyens très limités. Est-ce qu'il y a une possibilité de visiter justement ces ateliers et de prendre en compte comment se produit justement la laine, quelles sont les réflexions que ça pourrait amener pour peut-être amener une mutualisation de ces moyens ?
Disons que pour visiter, je pense que suivant les initiatives et les personnes, je pense que c'est à chacun de répondre sur son propre travail. Pour ce qui est de justement trouver des synergies, mettre en place des initiatives collectives, je pense qu'on y travaille pas mal, notamment justement parce que du coup, depuis 10 ans avec Margot, Jobé Duval, on essaye de proposer des formations sur le sujet de la filière. On l'a fait en lien avec le CFPPA de Die, maintenant on le fait avec l'ARDR, avec l'ADR, qui est la structure de formation de la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne, récemment, a pris en charge de mettre sur la table ce sujet de la laine et d'essayer de comprendre auprès des éleveurs qu'est-ce qui se joue et comment on pourrait... Tout ça prend un peu de temps, parce qu'en fait, c'est d'abord des choses que les gens font, en plus d'un boulot qui est souvent assez exigeant, hein, d'éleveur ou d'artisan. Dans les deux cas, c'est des métiers chronophages. Et puis, il y a des choses qui sont sur la table. Et pour ce qui est des visites ou de mieux rencontrer les gens, je pense que c'est une bonne occasion de venir le vendredi 11. Parce que justement, on a essayé vraiment d'inviter tout le monde. Après, on espère que les gens se sentiront tous vraiment bien accueillis et pourront venir parler du point de vue de là où ils sont. Parce que ce n'est pas pareil d'être artisan, d'être éleveur et d'être transformateur de laine. C'est des places différentes et du coup, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes.
À l'inverse de ces moyens très locaux, est-ce que tu t'es aussi intéressé à l'aspect industriel de la laine et comment ça se présente ? Quel est l'impact peut-être aussi sur la nature de ce type d'industrie très consommatrice d'eau et d'énergie également pour l'eau qui est à chauffer pour la cuisse, pour le lavage de la laine ?
Oui, c'est une vaste question. Bah, c'est un peu à tout ça qu'on compte répondre vendredi, donc je vous invite à venir. À 20h30, elle sera suivie d'un film au Pestel qui parle de ce qu'est l'industrie textile à échelle mondiale. Et je pense qu'on peut, dire que la problématique de l'industrie de la laine, si c'était ça que tu évoquais, il faut la contextualiser dans ce que c'est que l'industrie textile à échelle mondiale. Et en fait, la laine n'est qu'un très très petit problème face à, par exemple, la production du coton. Voilà, donc en fait, oui, on s'est intéressé à tout ça. C'est justement pourquoi on fait tout ça. C'est justement le truc qui nous habite depuis qu'on parle de ce sujet. Et le gros enjeu, là, c'est d'arriver à mieux faire comprendre que justement, les volumes là, de textiles consommés sont tellement énormes que, à côté de ça, la valorisation locale de la laine, même avec un peu d'énergie et de consommation de ressources, c'est rien du tout par rapport à ce que représente de trimballer des cargos de vêtements qui viennent de l'autre bout du monde et à faire pousser du coton OGM dans la mer d'Aral. Voilà, bref, mais tout ça, c'est un peu résumé. Pour en savoir plus, venez donc le vendredi 11, parce que ce sera plus détaillé et plus construit.
Et puis, je voudrais quand même aborder ta conférence sur la laine autrefois. Donc, tu as établi cette conférence sur des données, une documentation que tu as trouvée sur le territoire, sur le Diwa.
Oui, bah, ça fait quelques années là, que j'essaie de documenter vraiment ces différents aspects de l'histoire textile, de l'histoire de la laine, des usages des plantes. Enfin, il y a plusieurs choses que j'essaie de faire. Et là, c'est vrai que sur la laine, j'ai un ensemble de données qui viennent d'archives et qui viennent aussi de lieux et de témoignages. Et donc, je vais essayer d'en faire la synthèse, mais très rapidement. L'idée, c'est pas d'assommer les gens avec une histoire détaillée, mais plutôt de donner un contexte pour montrer qu'en fait, les choses sont souvent moins bien perçues quand elles ont été à une échelle un peu modeste, mais que ça n'empêche pas que ça a été une échelle importante pour notamment l'économie rurale du Diwa. Et puis qu'on a quand même eu des usines textiles au début du 19e et qu'elles font, dont l'activité était fondée sur la laine et que ça, c'était quelque chose d'important, en fait, économiquement, en nombre de populations qui travaillaient dans ces usines. Donc voilà, je vais raconter cette histoire en introduction, on va dire.
Et puis, Sources et Racines, c'est une association qui propose tout au long de l'année des activités, des ateliers. Au-delà de cette date du 13 novembre, quels sont-ils ?
Alors, on fait des sorties toute l'année sur des thèmes très divers et en gros sur l'environnement naturel et culturel. Donc, des sorties plus axées naturalisme, mais aussi plus sur les usages des plantes, sur plein de sujets divers. Voilà, donc il y a des sorties, il y a des événements, et puis il y a des formations, des mini-stages sur divers thèmes.
Voilà. Et on a un site, du coup, le calendrier de ces sorties est sur le site. Et on a une certaine souplesse, c'est possible de s'inscrire directement à partir du site ou en envoyant un message. Et la prochaine sortie, c'est Alison, justement.
Oui, voilà.
La prochaine sortie, c'est Alison, justement.
Donc, ça sera le 30 novembre et ça sera sur les plantes sauvages des rues de Die. Donc, en regardant là, plutôt la végétation urbaine et en regardant ce qui pousse au pied des murs.
Mais il y a divers autres aspects ou utilisations de ces plantes sauvages qu'on peut voir sur les bouts de trottoir.
Ah oui, tout à fait. Y a chaque plante a son usage. Après, il vaut mieux pas utiliser celles qui poussent dans les villes. Il vaut mieux, voilà. Là, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir la biodiversité dans le milieu urbain. Et c'est une biodiversité qui mérite aussi d'être protégée et d'être encouragée.
Et quelle est son utilité ? Est-ce qu'elle a une utilité justement dans le milieu urbain ? Est-ce qu'elle vient ici par hasard ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, peut-être que c'est pas toujours c'est intéressant de se questionner sur l'utilité, mais c'est aussi intéressant la biodiversité en soi. C'est toute la vie qui est autour de nous et dont on fait partie. Après, les plantes dans la ville, oui, ça a une utilité aussi par rapport, par exemple, aux poches de chaleur pour réduire la chaleur dans les villes et pour plein de choses. Mais aussi pour les insectes, les oiseaux et les autres êtres vivants à part nous humains.
Tu veux que je te dise que la vergerette du Canada, elle a été introduite en Europe. Elle servait surtout à fouetter les enfants. Hein, j'espère que tu auras des auditeurs qui sont intéressés. Un usage ethnobotanique assez peu couru, mais qui pourrait se remettre à goût du jour. Voilà, fouetter les enfants. Et cela dit, elle sert en teinture aussi. Et là, il n'y a pas de danger. Même si les chiens ont fait pipi dessus, ce n'est pas gênant. Et souvent, on a des plantes qui sont très... avec une biologie qui leur permet d'avoir beaucoup de capacités d'adaptation. Et c'est aussi parfois des plantes pionnières qui vont se réinstaller dans des milieux, même s'ils sont artificiels, qui finalement s'apparentent à des friches ou à des déserts ou à des zones avec peu de sol, dans des infractuosités, dans des failles. Et du coup, c'est des plantes qui ont souvent des grandes compétences d'adaptation. Et parfois, elles sont aussi là pour témoigner de ce qu'il y a dans le sol. Elles racontent, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup de métaux lourds, le fait qu'il y a beaucoup de tel ou tel type d'azote en raison des pipis. Voilà. Et en fait, elles sont là parce que tout ça est là. Donc en fait, elles sont le signe et la réponse naturelle à l'existence d'un certain nombre de composés dans l'environnement. Ce qui est rigolo, par exemple, c'est que les lichens, ils font pareil. S'il y a des lichens jaunes en bas des arbres, c'est parce qu'il y a beaucoup d'azote, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui font pipi. Comme quoi, tout est lié.
C'est un vaste domaine hein, pour ces plantes. Il y a la laitue vireuse aussi. Hein,
voilà.
Aussi, hein, la particularité, c'est de pousser les feuilles verticalement et en direction toujours du nord. C'est à ça qu'on les reconnaît, d'ailleurs. Et puis, tu connais, toi ?
C'est fou, hein ?
Oui, la laitue vireuse, vous connaissez ?
Oui.
Ouais. Eh bien, en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir hein, dans ce salon, notamment ces plantes, peut-être qu'on pourra trouver dans les villes, qui seront proposées à la vision dans ce salon d'automne.
Non, alors là, c'est deux moments différents. Hein. Là, on fait donc, pour récapituler pour les auditeurs, donc il y a vraiment le temps salon d'automne avec donc les champignons, les lichens, des temps d'accueil pour les scolaires, des temps d'accueil pour le grand public qui peuvent venir faire déterminer leur panier, et puis deux ateliers sur inscription. Un le vendredi, un le dimanche, qui permettent là de vraiment se former à déterminer. Donc voilà, ça c'est le temps vraiment naturaliste du salon d'automne. Après, il y a la journée laine le vendredi. Il n'y a pas d'inscription, c'est de toute façon prix libre, hein, l'accès est sans contrainte. Et la journée laine, c'est surtout le temps de 14h à 16h30, avec donc une conférence sur l'histoire, une conférence sur l'époque actuelle, et puis une table ronde entre personnes intéressées. Et suite à ça, donc la thématique du textile va continuer dans la ville, en dehors de notre salon. Voilà, ça c'est le salon donc jusqu'au 13 novembre. Et par ailleurs, la sortie d'Alison, donc le 30 novembre, qui sera, il faut s'inscrire, par l'association Sources et Racines. Le programme sur le site, facile à trouver. Donc normalement, on a aussi un Facebook, si jamais.
J'indiquerai les liens sur la page de l'émission. Hein. Eh bien, en tout cas, Marie et Alison, je vous remercie toutes deux d'être venues nous parler de ce salon d'automne 2022. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Yves.
Merci. Au revoir. In just a moment, this is a quest. This is a quest. A great builder. Now stay tuned for X-1 on NBC. We'll be right back.
from the far horizons of the unknown come transcribed tales of new dimensions in time and space. These are stories of the future, adventures in which you'll live in a million could-be years on a thousand maybe worlds. The National Broadcasting Company, in cooperation with Galaxy Science Fiction Magazine, presents
X minus 1